Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur RCF aujourd'hui. Mon invité Jean-Louis Bianco, député des Alpes-de-Haute-Provence et président du Conseil général. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de trois sujets d'actualité. D'abord l'interco et puis le désenclavement et on terminera par les présidentielles en parlant bien entendu des primaires du Parti socialiste. Premier sujet que nous allons aborder, c'est l'intercommunalité. On voit bien sûr le pôle manosquin qui se dessine assez précisément. Quant au pôle dinois, ça devient un peu plus compliqué. La préfète nous disait qu'il fallait deux jambes dans ce schéma-là, avec le pôle manosquin et le pôle dinois. Alors on voit que le pôle dinois a du mal à se constituer parce que les élus sont peut-être moins informés ou mal informés de cette nouvelle intercommunalité. Il y a peut-être aussi les réticences de perdre des postes et du pouvoir. Sur cette nouvelle configuration. Quel est votre avis là-dessus et quel espoir nous avons pour pouvoir avoir une vraie communauté d'agglomération sur le Pays dinois?
Alors, d'abord, rappelons pourquoi on est dans ce processus. Le gouvernement a fait voter une loi qui est supposée mettre de l'ordre, simplifier les compétences pour les collectivités territoriales. Je dis d'un mot que cette loi est de l'avis de beaucoup d'élus, au-delà même des couleurs politiques. Une mauvaise loi, par exemple, elle va diviser par deux le nombre de conseillers généraux sur notre territoire, en obligeant les gens à siéger à la fois à Marseille et à Digne, en réalité en augmentant le nombre des conseillers régionaux, ce qui fait qu'il va falloir faire des travaux, alors qu'on prétendait diminuer les dépenses. Elle va, dans les années qui viennent, si elle n'est pas modifiée, limiter les possibilités qu'ont aujourd'hui les communes, les intercommunalités, les départements, de travailler dans le sens de l'intérêt général en disant chacun ne s'occupe que d'une seule chose, ce qui pose des problèmes insurmontables. Qui peut s'occuper seul de l'emploi? Qui peut s'occuper seul de la jeunesse? Donc, je dis tout de suite que c'est une loi qui sera annulée et un nouveau débat commencera si la gauche est majoritaire en 2012. L'intercommunalité, c'est un des aspects qui peut être positif de cette loi, parce que c'est vrai qu'au fil des années, au fil du temps, des groupements de communes se sont constitués. Ça marche plutôt bien dans notre département, ça a créé de la confiance, la politique des pays a permis d'avoir une vue à long terme, mais qu'il faille mettre de l'ordre, revoir les structures, c'est une évidence.
Il y en a un peu trop actuellement, peut-être sur le bassin du Dinois et sur le
Alors,
département même.
je suis pas sûr qu'il y en ait tellement trop, parce que tout dépend de ce que les élus veulent faire. Au début, la préfète et son prédécesseur nous disaient il faut avoir 6, parfois certains disaient 5 grandes intercommunalités. Dans un territoire comme le nôtre, ça n'a pas grand sens. Je crois qu'il faut surtout laisser le temps aux élus de réfléchir et de décider. Et d'ailleurs, on a bien vu au moment des élections sénatoriales, ça a certainement été, nous, notre sénateur Claude Demezel n'était pas soumis à réélection, un des facteurs qui a accentué la poussée de la gauche, que même des élus de droite sont inquiets. Ils savent pas combien ça va coûter. Il est impossible d'avoir des simulations sur qu'est-ce que ça donne en termes de finances et d'impôts. Et puis, il y a, vous l'évoquiez, des problèmes de gouvernance. C'est vrai que des petites communes, dans une petite intercommunalité, elles pèsent, mais quand il n'y a plus qu'un représentant de la commune dans un conseil de 60, la commune se demande ce qu'elle va devenir. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a bien perçu. Nous avons interrogé le Premier ministre à l'Assemblée nationale, le ministre des collectivités locales, et ils ont dit que là, on pouvait avancer, on avancerait, et que là, on ne pouvait pas avancer, on garderait du temps. Ce qui est un peu ridicule, si je peux me permettre, c'est que le ministre, M. Richert, a dit que on allait créer une cellule d'écoute pour les élus pour répondre à leurs questions. Vous savez, ça me fait penser aux cellules d'aide psychologique quand il y a un accident. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Alors, j'en viens directement à votre question. C'est vrai que sur le pôle manosquin, les choses avancent bien, avec d'ailleurs des débats quand même.
Quand même, oui.
Fort-Calquier, l'arrière-pays de Fort-Calquier. Sur le pôle dinois, moi je suis convaincu que, comme vous l'avez dit et comme la préfète l'a dit, il faut qu'on ait un pôle dinois fort. Le développement naturel se fait dans le Val de Durance. Digne doit être absolument soutenu et aidé comme notre ville-préfecture et pour équilibrer les deux parties du département. Mais ça se heurte à un certain nombre de difficultés. Il y a des élus qui ne veulent pas se laisser forcer la main pour une communauté d'agglomération. Je pense en particulier à la communauté de communes d'Éduy et Bléone qui dit on n'est pas obligé de créer une structure. Passons des conventions, faisons des partenariats, travaillons ensemble sur le transport, sur le tourisme, sur l'économie. Et je pense que c'est une position qui mérite d'être prise en considération. Et puis il y a eu des maladresses. Je crois que ces choses-là ne sont pas simples. Et quand on veut rassembler autour de soi, il faut le faire en respectant les voisins. Donc j'espère qu'on avancera aussi loin que possible. Ce serait sage de donner un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne semble pas y avoir une majorité suffisante d'élus pour constituer une agglomération. Cela dit, on peut faire une intercommunalité forte sur Digne, on peut garder la structure de projet qu'est le pays dinois et avancer quand même.
Parce que dans l'objectif final, les pays vont disparaître avec cette communauté d'agglomération.
Alors, les pays, il n'y aura pas de nouveaux pays, mais après que nous ayons mené bataille les uns les autres, je veux dire la gauche et la droite, les pays existants continueront, parce que c'est une occasion de travailler sur un territoire plus grand. On le voit pour tous les pays qui structurent ce département avec une vision à long terme. Et je crois que c'est complémentaire d'une communauté de communes qui, elle, gère des services sociaux dans certains cas, une politique d'emploi, une politique de services publics.
Alors, vous avez parlé justement du cumul région-département dans la nouvelle RGPP qui va avoir lieu dans quelques temps. Est-ce que cette communauté d'agglomération, ce n'est pas la mort des mairies dans l'absolu ?
Alors, c'est
la disparition, tout au moins, des petites mairies.
C'est vrai qu'il y a un risque. C'est vrai qu'il y a un risque et je crois que nos concitoyens, surtout dans un département comme le nôtre, sont attachés à leur commune, à leur mairie. Le maire, même s'il n'a pas forcément beaucoup d'argent ni beaucoup de pouvoir, est l'interlocuteur de base pour les problèmes de vie quotidienne, l'eau, l'assainissement, pour des problèmes d'emploi, pour des problèmes de logement. Donc, il faudra veiller précisément à ce que les mairies conservent leur rôle d'accueil, de service immédiat. Et c'est vrai que c'est une des choses qui fait peur. Dans une grande communauté d'agglomération, on se dit « que va devenir ma petite mairie ?»
Alors, justement, on va parler du deuxième sujet qui est en lien avec le premier, puisque les communautés d'agglomération peuvent être aussi le moteur de ce désenclavement. On parle de beaucoup de choses, on n'est pas assez clair sur les décisions prises par rapport à ce désenclavement. On a parlé, passé un moment, de la voie de chemin de fer. On parle de l'autoroute, bon, qui est maintenant abandonnée. On parle d'une deux fois deux voies. On parle de la réaménagement de la RN85. Vous, votre position, c'est quoi ? C'est la meilleure position pour vous ? Ça serait laquelle ?
Alors, d'abord, un petit retour en arrière. Bref, comme vous le disiez, dans le schéma national des infrastructures de transport, le gouvernement a clairement abandonné également l'A51 qui nous intéresse, la liaison Sisteron-Grenoble, voilà, au profit d'une vague idée de contournement de Gap. De la même manière, ce schéma, et c'est d'ailleurs très choquant, a dit qu'en accord avec les élus concernés, je ne sais pas où est l'accord des élus concernés, en tout cas ni les maires, ni le conseil général, il avait été décidé de renoncer à la bretelle autoroutière qui devait relier Digne à Péruy, au profit d'un aménagement de la route nationale 85. Outre la méthode qui est choquante, parce que prétendre que nous avons cautionné cela est un pur et simple mensonge et un mépris des élus, d'ailleurs je crois que la préfète l'a plus ou moins reconnu, moi je trouve dommage qu'on ait perdu autant de temps. En 2002, j'avais obtenu, y compris de Mme Voynet, qui n'était pas extrêmement favorable aux autoroutes, que pour ce petit barreau autoroutier, on puisse avoir une procédure. Il y avait deux sociétés, dont Escota, qui avaient répondu. Donc si après 2002, les gouvernements successifs avaient agi, aujourd'hui, nous aurions le barreau autoroutier entre Digne et Péruy, nous l'aurions. Alors que là, on est reparti pour je ne sais combien d'années de procédures administratives, de déclarations d'utilité publique. Alors, sur votre question directe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le train, je fais partie de ceux qui, depuis le début, se battent pour réouvrir la ligne Digne-Saint-Auban. C'est une évidence que le train est un transport plus écologique. Simplement, on ne peut pas avoir que le train. Donc il faut aussi améliorer la desserte routière. Et je crois que si, comme ça semblait être le cas, la préfète nous dit que ça n'est pas encore décidé, tant mieux, mais on se contentait de créneaux de dépassement, d'une voie pour les cyclistes et pour les piétons, ça ne sert
ça
absolument
sert
à rien. Et en plus, on va nous demander à nous, département, de l'argent. Donc moi, je reste partisan du principe d'une deux fois deux voies pour qu'on ait une circulation dans des conditions suffisantes et satisfaisantes. Et j'ai indiqué que malgré toutes nos difficultés financières, malgré les transferts de charges de l'État, bien qu'il s'agisse d'une route nationale, le Conseil général était prêt à y participer. Nous allons donc avoir des réunions dans les prochaines semaines, mais je craindrais vraiment qu'on dépense encore une fois du temps, de l'argent, des procédures administratives pour finalement faire quelques améliorations comme celles qu'on a vues ces dernières années.
Alors, de toute manière, on sait très bien qu'avec les présidentielles dans 7 mois, les dossiers bougent très difficilement jusqu'aux prochaines échéances.
Non, les présidentielles ne sont pas une raison pour attendre. Je vous dis, on attend depuis au moins 2002 et moi, je considère et je crois que c'est l'état d'esprit de la préfète qu'il faut avancer le plus vite possible parce que Une fois que la décision a été prise par l'État, il va encore falloir 4, 5, 6, 7, 8 années de procédures, de DUP et de travaux. Donc, hélas, c'est encore loin le désenclavement de Digne.
Donc, la route et le train, les partenaires financiers, État, région, département et villes traversées ?
Alors, les villes autant qu'elles le pourront. Hein, on connaît les difficultés financières de la ville de Digne, mais en tout cas, État, département, région, et autant qu'elles le pourront, Château-Arnoux, pour le train, n'est pas non plus dans une situation florissante à cause d'Arkema, les communes traversées.
Si ce désenclavement ne se fait pas, on peut considérer la mort de Digne assurée dans quelques années ?
Je ne le crois pas. Forcément. Je ne le crois pas. C'est un inconvénient. C'est pénible, irritant. Ça bloque certainement des installations quand il faut parfois plus de temps pour aller du centre de Digne jusqu'à l'autoroute que de l'autoroute à Aix-en-Provence. Mais en même temps, le développement de Digne, il doit reposer sur une volonté dinoise. On n'est pas obligé d'avoir une autoroute une deux fois deux voies. Avec Internet, on peut avoir des entreprises par Internet. On peut avoir une dynamique de service. Et moi, je soutiens tout ce qui pourrait être entrepris sur Digne, sur les communautés de communes existantes, pour développer l'emploi et le logement. Il ne faut pas attendre le désenclavement comme le miracle, sinon en effet, Digne risque de mourir. Donc, il faut que les initiatives se multiplient, soient prises, et moi je serai toujours aux côtés des élus du pays dinois, parce que ça dépasse la seule ville de Digne, et le Conseil général sera à leur côté pour tout ce qui peut être création d'emplois, défense des services publics, développement du logement.
Alors on se rend compte aussi que les entreprises, comme vous le disiez, ont du mal à s'installer sur Digne. Est-ce que c'est lié au désenclavement ou est-ce que c'est lié à la situation géographique de la ville ou est-ce que c'est lié à une volonté parce que les charges patronales sont peut-être un peu élevées?
Non, je ne crois pas que ce soit la question de la fiscalité. Digne a hérité des gestions d'autrefois, une fiscalité très lourde. Il y a la géographie, bien sûr, qui est moins favorable que celle du Val de Durance. Il y a la question aussi de l'espace nécessaire, mais ça regarde la communauté de communes des Trois-Vallées pour accueillir peut-être de nouvelles entreprises. Mais Digne demeure attractive, Digne est une belle ville, Digne a un énorme potentiel. Je crois que les chefs d'entreprise y regardent où ils peuvent s'installer à des coûts acceptables et comment ils peuvent travailler. Donc Digne n'est absolument pas condamné à mourir.
Quel est le regard vous portez sur Manosque et sur son extension? Sur l'ampleur que ça prend avec ITER, est-ce que vous avez un regard objectif? Est-ce que vous n'avez pas peur que le département se coupe en deux avec le pôle manosquin qui est près des grandes métropoles ex-Marseille et puis l'arrière-pays avec Digne et Lubaye et le reste du département qui sera peut-être à la traite dans quelques années?
Alors, vous avez raison, il y a un vrai risque qui tient en grande partie à la géographie. Au fond, Manosque est tout près d'Aix-en-Provence, de Cadarache et d'ITER. Et moi, je me suis battu aussi pour que nous bénéficions du développement d'ITER, par exemple, par l'école internationale que j'ai voulu avec le maire de Manosque, situé à Manosque, et non pas dans les Bouches-du-Rhône. Mais notre devoir à nous, conseiller général, c'est bien pour ça qu'il faut garder les départements. Il est de veiller à la vallée de Luba, il est de veiller à Sisteron, il est de veiller à Castellane, il est de veiller à Fort-Calquier, à son arrière-pays, il est de veiller à Digne. Il n'est pas de simplement laisser faire les évolutions. Donc, là aussi, nous aurons, nous, à continuer à avoir une politique de soutien à la dynamique manosquine, mais aussi de soutien à tout ce qui peut être fait dans le département. Nous avons un rôle d'aménageur du territoire.
D'accord.
Thank you.
Mon invité Jean-Louis Bianco, député des Alpes-de-Haute-Provence et président du Conseil Général. Alors on va parler bien entendu aussi des présidentielles puisque c'est dans 7 mois. Vous avez innové cette année au Parti Socialiste avec les primaires qui ont eu lieu les 9 et 16 octobre dernier, avec 4 candidats, dont un qui est ressorti avec plus de 56%. Vous avez, vous, soutenu Ségolène Royal en 2007. Vous l'avez considéré aussi comme présidentielle en 2012 et vous l'avez soutenue. Dans quel état d'esprit se trouve-t-elle aujourd'hui après avoir essuyé un échec au premier tour des primaires? Et alors, pourquoi ces primaires d'abord?
C'est vraiment une petite révolution dans notre vie politique française. Puisque
les écologistes l'avaient déjà fait un peu moins...
Les écologistes l'ont fait il n'y a pas très, très longtemps, mais avec une participation moins forte, mais c'est une démarche que je tiens à saluer également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte d'un parti, qu'il suffit de signer une déclaration comme quoi on adhère aux valeurs générales de la gauche et de payer 1 euro pour les frais de fonctionnement. En
donc
réalité, les gens ont mis en moyenne
1,5 euro,
ce qui veut dire qu'on couvre tout à fait les frais. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a eu pratiquement 3 millions de personnes au deuxième tour. 650 000 personnes ont laissé leurs coordonnées. Ça ne se faisait que sur une base volontaire pour dire « moi, ça m'intéresse, je veux participer à la suite de la campagne ». Donc c'est une vraie révolution démocratique. Les débats ont été passionnants, ont été suivis par des millions de personnes à la télévision. Et je pense que désormais, on ne pourra plus faire de la politique sans associer les citoyens. Et ça donne évidemment à notre candidat, François Hollande, un formidable élan, même si rien n'est gagné et tout reste à faire. Donc, j'ai soutenu Ségolène Royal parce que je considère toujours qu'elle a des qualités exceptionnelles. J'ai été triste de sa défaite, comme elle l'a été elle-même. Elle a fait preuve de beaucoup de courage et dignité en disant très vite qu'il fallait soutenir François Hollande, le candidat arrivé en tête, et la netteté et la force de son soutien a certainement contribué à ce que François Hollande gagne. Ça n'enlève rien aux grandes qualités de Martine Aubry, mais je crois qu'il était important pour nous que le candidat ou la candidate, en l'occurrence le candidat, soit élu avec une marge forte, de sorte qu'il n'y ait aucune contestation. D'ailleurs, Martine Aubry a dit aussitôt qu'elle mettait le parti, puisqu'elle est redevenue première secrétaire au service du candidat François Hollande.
Alors voilà, justement, revenons là-dessus, parce qu'on a peut-être certains auditeurs n'ont pas suivi. Elle s'est mise en retrait de la première secrétaire.
Dans la mesure où elle était candidate, elle a décidé, ce qui était tout à fait normal, qu'elle ne pouvait plus assumer en même temps la responsabilité de conduire le Parti Socialiste dans cette phase des élections primaires. Et donc, c'est Harlem Désir, le numéro 2 du parti, qui a assuré l'intérim. Il l'a d'ailleurs très bien fait, puisque tout le monde disait « c'est primaire, ça va être compliqué, pas facile à organiser ». Et j'étais mercredi au bureau national du Parti Socialiste, où tout le monde a salué l'action de Harlem Désir et où il y avait un rassemblement très chaleureux. Des applaudissements longs et spontanés pour François Hollande, des applaudissements longs et spontanés pour Martine Aubry. J'avais une petite pointe de regret. Ça aurait été mieux si on avait su faire ce rassemblement en 2007 autour de Ségolène Royal. Mais enfin, regardons vers l'avenir.
D'accord. Alors, on entend aussi Jean-François Copé vraiment démantelé, ils ont déjà commencé votre programme pour justement toucher tous les points négatifs à leur avis. Vous pensez que c'est une guerre pas justifiée ou est-ce que le débat va être vraiment constructif avec des remarques vraiment très constructives et plutôt que de descendre un programme pour essayer de gagner 2012?
Alors, permettez-moi de vous dire que, sans exagérer les choses, j'ai trouvé très, très sincèrement ridicule et je trouve encore ridicule l'attitude de l'UMP. Pendant des mois, à l'Assemblée nationale, ils nous ont dit « c'est anticonstitutionnel vos primaires, vous allez ficher les citoyens », alors qu'on avait l'accord du Conseil constitutionnel, de la Commission informatique et liberté. Copé a mené ce combat. Et 3 mois après, il dit « je n'ai jamais dit que j'étais contre les primaires ». Je crois qu'on ne peut pas faire de la politique en mentant de manière aussi effrontée à 3 mois d'intervalle. Pour le reste, ils ont tort. Les primaires ont été un événement salué par des tas de Français, même non socialistes. 79% ont approuvé ce processus. Passer son temps à caricaturer le projet en affichant des chiffres tous plus stupides les uns que les autres, alors que nous avons fait un effort très précis pour ne pas avoir trop d'objectifs et trop de dépenses, je crois qu'ils sont à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous travaillons, le projet est un socle, la crise s'est aggravée, il va donc falloir encore revoir un certain nombre de choses, et autour de François Hollande, nous allons construire ce qui sera le programme présidentiel. Donc, je dis à M. Copé et à ses amis, ne soyez pas si impatients, attendez de critiquer sur pièce, et puis, N'oubliez quand même pas que vous êtes aux responsabilités, que le plan d'austérité que vous préparez pour les Français est terrible, que même si c'est difficile, vous n'avez pas toutes les responsabilités, mais enfin, vous n'arrivez pas à résoudre la crise européenne, que vous laissez faire les banques comme avant. C'est paradoxal, on a l'impression que c'est nous qui sommes au pouvoir et qui devons répondre de ce qui est un projet en construction. Donc, au lieu de vous occuper des socialistes, occupez-vous de la France.
Nicolas Sarkozy ne s'est pas encore positionné par rapport à son éventuelle succession.
On n'a aucun doute. Tout le monde sait qu'il sera candidat. Voilà. Il est d'ailleurs déjà en campagne depuis des mois et des mois. Je crois que c'est un faux semblant. Il est en campagne et il sera candidat, c'est évident.
Vous pensez, si dans le deuxième tour, François Hollande se trouve en face de Nicolas Sarkozy, vous pensez avoir les arguments nécessaires pour le contrer et gagner les élections ?
Rien n'est joué. Les sondages sont
pour l'instant
incroyables. 62% pour François Hollande, je n'y crois pas une seconde. Ça révèle simplement à ce stade le rejet de Nicolas Sarkozy, y compris à droite, pour des promesses non tenues, et l'adhésion, voire même l'enthousiasme suscité par la primaire. Soyons très prudents, rien n'est joué. Nicolas Sarkozy, à mon avis, est un mauvais président, mais c'est un excellent candidat, avec beaucoup de vista, de réflexes politiques, de vivacité, de pugnacité, avec quelques relais quand même, qui ne sont pas négligeables dans les milieux financiers, les milieux économiques et certains grands médias. Rien n'est acquis. Il faut que, autour de François Hollande, nous faisions la preuve que nous avons un candidat, ce que je crois profondément, capable de gouverner la France. Et vis-à-vis des Français qui sont dans la crise, qui souffrent de la précarité du pouvoir d'achat, leur dire et leur montrer, et ce sera l'objet de la campagne, qu'on peut non pas tout faire bien, non pas tout faire comme si c'était facile, mais qu'on peut vraiment améliorer les choses sur le pouvoir d'achat, sur l'avenir des jeunes, qui est la priorité de François Hollande, et sur la précarité.
Quel rôle vous allez jouer, vous, dans cette campagne et après 2012, dans l'éventualité où François Hollande serait aux commandes du pays? Alors, est-ce que vous allez...
Il n'y aurait rien de pire que de commencer à se projeter dans les hypothétiques gouvernements. Je crois que ce n'est tout simplement pas respectueux du suffrage. Et donc, la seule question qui se pose pour l'instant, c'est de développer le programme du candidat et de convaincre, comme je le disais, une majorité de Françaises et de Français.
Il va bien se monter une équipe.
Oui, bien sûr. Moi, je suis à la disposition de François Hollande. Vous savez, je ne suis pas du genre à courir après les postes, mais j'aurai certainement l'occasion de travailler avec lui dans le domaine des questions européennes et questions internationales, qui sont un peu ma spécialité.
Merci beaucoup, Jean-Louis.
Merci à vous
pour ces moments d'échange. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, pour la dernière question, avant de terminer l'émission, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs qui n'ont plus confiance en l'homme politique, qui n'ont plus confiance à la gouvernance, qui sont un petit peu déprimés à travers ce qu'on le disait, la crise, le pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour leur donner de l'espoir et pour que surtout ils aillent voter en 2012 pour affirmer leurs convictions et dire attention maintenant,
écoutez,
s'occuper de nous?
Je leur dis d'abord, regardez ce que font vos élus locaux. Les communes ou intercommunalités, les départements, les régions, vous voyez que vous avez là des hommes et des femmes politiques qui sont capables d'agir, qui sont à votre écoute et qui, dans leur immense majorité, sont des gens honnêtes. Or, ce sont les mêmes qui vont demain se battre pour essayer de vous apporter une amélioration. Donc, ne désespérez pas de la politique. Je prends l'engagement devant vos auditeurs que nous aurons un programme sérieux, chiffré, réalisable, mais avec une vraie volonté de changement. Je ne prends qu'un exemple. François Hollande a d'ailleurs repris une de mes propositions. Il est scandaleux que les banques continuent à agir comme avant, alors qu'elles ont été soutenues, sauvées par nos impôts et par l'État. Donc, ce que nous ferons, c'est reprendre le contrôle sur les banques avec un représentant de la nation qui vérifiera qu'il y aura un droit de veto, qu'elles arrêtent de spéculer et qu'elles soutiennent nos petites entreprises. Et ça, c'est une mesure proprement révolutionnaire qui ne coûte rien si ce n'est de la volonté politique.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bien coup d'avoir accepté notre invitation. On aura l'occasion de vous écouter sur notre antenne certainement d'ici mai 2012. En tout cas, vous êtes le bienvenu chez nous pour... toute intervention sur divers sujets, en tout cas locaux, puisque c'est aussi l'intérêt de notre radio, c'est de permettre aux auditeurs de comprendre un petit peu les enjeux locaux à travers les enjeux nationaux.
Merci beaucoup.
Bonne journée sur RCF, les programmes continuent. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.